14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Les familles se disent persuadées que je suis le coupable. Je comprends les familles, je compatis avec eux. On ne peut pas condamner une personne à perpétuité sans vérifier les dires de cette personne. C'est tout ce que j'ai à dire. Je m'expliquerai en France.
Bonjour. Avec toutes ces années, on le croyait mort. Il était devenu officiellement l'un des plus anciens fugitifs de France. Ses dernières photos présentaient de façon immuable le visage d'un homme jeune, bronzé et souriant. 20 ans après sa fuite, voilà que Thierry Assione, 62 ans, vient de refaire surface à l'autre bout du monde, au détour d'un rocambolesque naufrage au large d'une île indonésienne. La justice le soupçonne d'être mêlé au double assassinat en 1991 au Guatemala d'un couple de restaurateurs français qui tenaient dans la capitale un établissement réputé. Leur argent aurait attiré bien des convoitises, dont celle de l'aventurier Thierry Assione. Celui-ci n'a jamais cessé de démentir son implication dans cette exécution barbare et a toujours fourni, on va le voir, une autre explication. Pourquoi sont morts les restaurateurs? L'argent ou la politique? Que raconte cet homme qui a passé la moitié de sa vie à fuir la justice? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de cette surprenante affaire, dont Thierry Assione, en personne, qui depuis l'Indonésie, où il attend d'être réglé sur son sort, répondra à nos questions.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui, dans l'heure du crime, un fugitif nommé Thierry Assione, 20 ans de traque. Le nom de cet homme va apparaître dans les jours suivant la Noël 1991, au détour de l'effrayant double meurtre d'un couple de Français installé au Guatemala. Ce samedi 28 décembre 1991, des enfants qui jouent sur un terrain vague dans une banlieue populaire de Guatemala City sont attirés par la présence d'un sac poubelle fermé qui dégage une odeur de putréfaction. L'un des garçons le déchire et reste figé à la vue d'un corps humain. La police municipale se rend aussitôt sur place. Le cadavre est celui d'une femme qui a subi des mutilations. Les yeux ont été arrachés, tout comme la langue, ainsi qu'une série de dents. Un deuxième sac poubelle est découvert. Celui-ci renferme le corps d'un homme qui, lui aussi, a été l'objet d'horribles violences. La victime a été torturée de la même manière. Le légiste de la police indique que le couple a été frappé, mutilé, en partie brûlé alors qu'il était encore en vie, puis achevé d'une balle dans la tête. Les enquêteurs n'exclut pas l'action d'un cartel de narcotrafiquants ou même d'une opération montée par un groupe paramilitaire. Les deux malheureuses victimes sont identifiées. L'homme est un Français bien connu dans la capitale, Bernard Béraud, 52 ans. Il tient le restaurant gastronomique chez Pierre, une table qui reçoit chaque soir le gratin local. Homme politique, magistrat, responsable policier et footballeur en vue. La femme et sa compagne, Marie-Antoinette Pierrard, 44 ans, elle accueillait les clients. La police de Guatemala City penche pour une extorsion de fonds qui aurait tourné au massacre, mais conduite par des personnes particulièrement bien informées des habitudes du couple de restaurateurs. Bernard Béraud et Marie-Antoinette Pierrard ont été agressés dans la soirée du vendredi 27 décembre alors qu'ils étaient en route pour l'aéroport. Ils devaient prendre un vol pour Miami comme ils le faisaient fréquemment en fin de semaine pour aller déposer dans une banque la recette de leur restaurant. Il était prévu qu'ils partent ensuite en croisière. Une équipe de rançonneurs leur a barré le chemin et les a séquestrés. La recette a disparu. Les enquêteurs contactent le FBI américain. Ils apprennent que quelques heures après le rapt, un homme a retiré 80 000 dollars sur le compte du couple. Une personne qui manifestement disposait des accès bancaires, sans doute obtenus sous la torture. Les investigations se tournent peu à peu vers le dénommé Jean-Philippe Bernard, 23 ans, le neveu du restaurateur assassiné. Celui-ci vit dans une belle villa de la ville avec deux Français, Philippe Biret, un ancien légionnaire, et Thierry Assione, un Marseillais installé ici depuis quelques mois, courtier et revendeur de véhicules militaires. 29 janvier 92, un mois donc après le crime, Jean-Philippe Bernard et Philippe Biret sont interpellés à Guatemala City. Manque à l'appel Thierry Assion, qui a disparu. Ayant eu vent d'une possible arrestation, il aurait pris la poudre d'escampette jusqu'à Miami, où le FBI n'a aucune trace de lui. Malgré l'absence du troisième homme, les autorités locales, en premier lieu le procureur général Assis Claude Valadares, se réjouissent de ce coup de filet éclair. Bernard et Biret sont présentés d'emblée comme les assassins des restaurateurs. Aucune recherche d'empreintes sur les sacs poubelles. Pas d'expertise de la signature falsifiée attribuée au légionnaire Biret sur un chèque du restaurant, etc., etc. On en oublierait presque Thierry Assion, qui a tiré deux chèques sur le compte de Béraud. Un de 80 000 dollars, un second de 45 000 quetzals, la monnaie locale, environ 6 000 euros. Et voilà donc pour le décor de ce double meurtre de Guatemala City qui touche donc un couple de restaurateurs tout aussi célèbre que tranquille. Bonjour Timothée Boutry.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Parisien. Vous connaissez bien cette affaire puisque vous avez révélé, je crois, l'arrestation, on peut le dire comme ça, de Thierry Assion en Indonésie il y a à peu près un mois de cela. C'est vous qui avez sorti cette information. Je le disais, Timothée Boutry, un couple de restaurateurs célèbres et tranquille, qui vraiment pouvait leur en vouloir? Ils étaient bien implantés à Guatemala City.
Oui, comme vous l'avez dit, ils tenaient un établissement réputé en vue de la capitale de cet État d'Amérique centrale. Ils avaient même un second établissement qui avait d'abord été géré par le fils de M. Béraud, puis par son neveu. Et donc les affaires tournaient bien. Alors il y avait, comme vous l'avez dit, l'intelligentsia locale qui venait dîner à ce restaurant, le monde des affaires, de la politique. Alors forcément, c'était des lieux...
un peu sensibles, on va dire.
Oui, et puis on se dit, bon, bah, dans un petit état comme ça, instable politiquement, peut-être qu'on peut entendre des secrets, peut-être que des choses pas forcément nettes s'y trament, que sait-on ? C'est un lieu où les pouvoirs se croisent, en tout
et
cas.
Puis c'était, et puis, vous l'avez dit, le Guatemala, c'est un petit état. À cette époque, il est en complète ébullition. L'argent, ça donne envie aussi. On sait qu'ils gagnent beaucoup d'argent, ces restaurateurs, donc ils peuvent attirer les convoitises, tout simplement.
Oui, je mène que forcément, on se doute que ce sont des expatriés dans une situation plutôt confortable, donc on sait que le restaurant marche bien, ça draine des liquidités, forcément, peut-être de la jalousie aussi, donc mais après ils sont bien installé, ça tourne. Lui, il est président de l'Union des Français de l'étranger sur place. C'est un peu des notables locaux, quelque part. Quoi.
Un mot, Timothée Boutry, sur cet étrange trio qui surgit très vite. Hein. On l'a vu, l'enquête, elle n'a pas traîné. Hein. Un mois, hop, tout était plié quasiment. Donc c'est dire si ça va vite.
Ça a d'ailleurs été dénoncé par les proches de Bernard et de Biret qui n'ont cessé de dire que l'enquête avait été totalement bâclée, à charge et que leur mise en cause n'était pas fondée sur des éléments très solides. Voilà. Non, mais je fais cette parenthèse sur la rapidité.
Et c'est également émis par Thierry Assion, qu'on va entendre dans cette émission dans quelques minutes, qui dit qu'effectivement l'enquête elle a été complètement bâclée, ou en tout cas orientée. C'est une question qui se pose, effectivement, et on peut la poser vu le faible nombre de vérifications qui ont été opérées. Un mot, Timothée Boutry, sur ce trio. Jean-Philippe Bernard, Philippe Biret, Thierry Assion. Trois hommes qui vivent quasiment ensemble dans une maison, une jolie maison, mènent la grande vie plutôt.
Après, c'est sans doute des rencontres qui se font un peu en dehors de France. C'est peut-être des climats qui sont propices.
Entre expatriés, c'est ça.
Oui, et puis avec un peu des aventuriers. Enfin, Thierry Assion, il a un parcours qui est pas banal non plus. On va sans doute le détailler un peu plus tard dans l'émission, mais il a fait pas mal de prison. Il a participé à un braquage très jeune. Il vient de Marseille. Il était déjà connu de la justice. Il a baroudé. Il a continué à barouder ensuite. Donc voilà, c'est des profils de gens parfois un peu tropicalisés dont on dit voilà, c'est français.
Il a déjà un gros casier, Thierry.
Il a pris 7 ans de prison très jeune. Hein, donc voilà, c'est un Marseillais qui a participé à un braquage solide pour prendre 7 ans de prison. Et il se retrouve là, lui dit qu'il vend des véhicules pour la junte militaire, mais en sous-main il travaille pour l'État français, qui n'est pas forcément totalement à exclure, parce qu'on se dit que...
Non, ça arrive.
Ça arrive, ma foi, on a ce type-là qui grenouille avec l'appareil militaro-industriel d'un pays un peu instable. Forcément, ça peut être un atout et on va l'exploiter. Donc
bien
ça,
sûr.
tout est un peu possible. C'est ça qui dans, la rend un peu mystérieuse, intrigante et qui laisse plein de portes ouvertes. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se concentrent là. On a ce personnage un peu rocambolesque, aventurier. On a ces deux Français assez jeunes qui sont sur place, Biret, un peu marginal, ancien légionnaire. Bon, ben voilà, on a cet aéropage un peu particulier et forcément propice à tous les fantasmes, toutes les accusations aussi. Et quand on voit, bon, ben, y a une issue tragique, forcément,
bien sûr.
Ça renforce tout ça, quoi.
Toutes les supputations et toutes les interprétations, vous avez bien raison de le dire. Ben justement, écoutez, on a le principal intéressé dans l'heure du crime aujourd'hui. Bonjour Thierry Assion.
Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui de répondre aux questions de l'heure du crime. Depuis Manado en Indonésie, où vous êtes libre, on peut le dire comme ça, dans l'attente que votre sort judiciaire soit réglé. Vous allez nous en parler dans un petit moment. Je voudrais qu'on reste pour l'instant sur ce qui s'est passé au Guatemala. Vous apparaissez, je viens de le dire, dans cette histoire, c'est vous qui récupérez l'argent des victimes à Miami. Ça, vous le reconnaissez, Thierry Assion?
Je reconnais avoir pris l'argent, non. Je reconnais avoir encaissé le chèque, parce que le chèque, il est à mon nom. Donc, c'est quand même difficile de ne pas reconnaître. Mais le point, il est que ce chèque, ça n'a rien à voir avec les autres, la dizaine d'autres comptes bancaires qu'il y a à Miami, dont le juge lui-même, Gilberti, mentionne dans son livre. Là, on mélange un peu tout, on essaie de noyer le poisson en parlant qu'uniquement de ce chèque, comme si c'était une preuve de ma culpabilité.
Alors, on va revenir sur ce que vous dites, mais pour simplifier, c'est que le couple de restaurateurs avait plusieurs comptes, qui ont été vidés, d'ailleurs, tous ces comptes, on sait qu'il n'y a plus rien dessus, qui ont été vidés, mais pas par vous, c'est ça Thierry Assion?
Moi, j'ai jamais touché à cet argent des comptes, et c'est pas moi qui les ai détournés. Je constate néanmoins que la personne que j'accuse depuis 1995 avoir vidé les comptes, lui, par contre, il fait l'autruche, il demande pas non plus que les comptes soient vérifiés. S'il est innocent, il devrait le faire. Mmh. Ensuite, le juge Thiel, dans son livre, mentionne que c'est le FBI qui l'a empêché d'obtenir les preuves. Je suis désolé, moi, j'y crois pas. Et je pense que c'est une excuse. Et je demande aussi au garde des Sceaux, et j'ai saisi moi-même le FBI, l'antenne du FBI, à Paris, à l'ambassade des États-Unis, pour vérifier. Hmm. C'est tout ce que je veux dire pour le moment.
Alors, cette personne, je le précise, hein, la personne dont vous parlez, qui aurait vidé les comptes, c'est selon vous, et vous le dites depuis des années, un ex-responsable du RPR. On ne donne pas son nom, car il n'est pas là pour nous apporter aujourd'hui ses explications. Je voudrais qu'on entende Dominique Latouche, qui est en ligne. Bonjour Dominique Latouche.
Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Vous êtes la sœur de Marie-Antoinette Pérard, donc l'une des victimes. Merci d'être aujourd'hui dans l'heure du crime. Quel couple formait votre sœur avec Bernard Béraud? C'était un couple tranquille, on l'a dit?
C'était un couple très tranquille, oui. Tout à fait. Mon beau-frère était un homme éminemment gentil, éminemment respectueux des autres. Très gentil. Très doux. Voilà. Ma sœur était moins douce. elle avait un certain caractère, mais ils s'entendaient très bien. Et lorsque Bernard a voulu quitter la France pour faire autre chose, elle l'a suivi, sans problème.
Alors, on a entendu Thierry Assion, il a toujours reconnu, et il vient de nous le redire, qu'il a bien encaissé un chèque, mais il dément farouchement toute implication, lui, dans les meurtres.
Ça, je ne peux pas commenter. Il est évident qu'une personne qui a assassiné d'autres personnes ne va pas dire c'est rarissime que dans un cas de crime crapuleux, quelqu'un avoue spontanément, si je puis dire. Surtout qu'au Guatemala, à l'époque, je ne sais pas actuellement comment c'est, mais à l'époque, c'était la peine de mort assurée pour quelqu'un ayant avoué son crime. Donc, il est tout à fait normal et logique qu'on dise c'est pas moi. Je peux pas vous dire c'est parce qu'il dit c'est pas moi que c'est pas lui.
Les autorités guatémaltèques vont se dépêcher de faire justice avec les deux suspects qu'ils ont sous la main. Le troisième homme, trop difficile à localiser, ne semble pas les intéresser. Aucun mandat d'arrêt n'a d'ailleurs été délivré contre lui. en ce mois d'octobre 1992, soit 10 mois seulement après l'assassinat de Bernard Béraud et Marie-Antoinette Pierrard, Jean-Philippe Bernard et Philippe Biret comparaissent devant le tribunal criminel de Guatemala City. Ils certifient qu'ils n'ont rien à voir dans cette double exécution, mais l'accusation les accable. Jean-Philippe Bernard, neveu du restaurateur, avait reçu de son oncle la gérance d'un nouvel établissement de luxe, le Café de Paris. Les deux hommes ne s'entendaient pas. Le mobile du crime est le vol. De fortes sommes ont été débitées sur les comptes des victimes juste après leur mort. Procès rapidement expédié, Bernard et Biret sont condamnés à 30 ans de prison, procédure qui va être émaillée pendant les 3 années suivantes de multiples rebondissements, un verdict cassé pour vice de forme, un juge d'instruction qui estime ensuite que le dossier est vide, un deuxième procès qui confirme les 30 ans de prison et pour couronner le tout, la brève évasion de Jean-Philippe Bernard du centre de détention de Pavone. Il est repris un mois plus tard, le 13 juillet 95. Pendant tout ce temps, Thierry Hassion, lui, a réussi à se faire oublier. Le mandat d'arrêt finalement émis par la France n'a pas permis l'arrestation du fugitif, même si ce dernier ne se cache pas vraiment. Après avoir séjourné en Floride, il a mis le cap vers l'Asie, Hong Kong, la Chine, l'Inde, la Malaisie, puis la Thaïlande, où il a ouvert une société d'import-export qui a pignon sur rue. Il s'est présenté à l'ambassade de France à Bangkok pour faire une déclaration sur sa situation judiciaire et indiquer qu'il n'avait rien à voir avec le crime de Guatemala City. Sous la pression des journaux qui citent son nom, il préfère à nouveau déguerpir avec un vrai faux passeport qu'il aurait obtenu auprès du consulat de France de Kuala Lumpur. Il prend la direction du Vietnam. Il y monte une société d'import-export. Mars 95, après les condamnations définitives de Bernard et Biret, il témoigne dans l'émission Perdue de vue sur TF1 et dans les colonnes du journal Libération pour prendre la défense de ses amis et la sienne au passage. Les autorités françaises lui confisquent son passeport. Thierry Hassion est interpellé quelques semaines plus tard en transit à Bangkok en possession d'un document d'identité volé à un Américain. 7 septembre 1995, Thierry Hassion, 36 ans, est arrêté par les gendarmes du GIGN à l'aéroport de Roissy, en provenance de Thaïlande, pays qu'il a expulsé. Il est aussitôt amené devant le juge d'instruction Gilbert Thill. Hassion est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. J'ai voulu m'expliquer de tout ça à l'époque, mais le juge Thill n'a jamais voulu m'écouter. Il se prenait pour Belmondo. Il me disait que j'allais prendre perpète. Il m'a fait condamner sans rien vérifier, mais je n'ai rien à voir avec ce double crime, a indiqué récemment Thierry Hassion au journal Le Nouveau Détective. En mai 2000, après 4 ans et 7 mois de détention provisoire, le suspect est remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il va alors s'installer dans le Var, dans la région de Saint-Tropez. Judiciairement, il ne peut pas être extradé vers le Guatemala. Il doit comparaître dans quelques mois devant une cour d'assises. C'est la France qui le jugera. Qui le jugera ou ne le jugera pas, parce qu'on va voir dans le chapitre suivant que ce procès d'assises ne tournera pas de la façon que l'on croit. Seule certitude que l'on a, ou plutôt que le Guatemala a, c'est d'avoir 2 coupables sous la main pour le double meurtre des restaurateurs. Timothée Boutry, journaliste au Parisien qui suivait cette affaire, on peut dire que, vous l'avez déjà dit déjà dans le premier chapitre, mais que si l'enquête a été rondement menée, le procès, il n'a pas fait un pli. Là, on peut dire que la condamnation, elle est ultra rapide des 2 ans de prison chacun.
Oui, en plus, vous l'avez dit, il y a eu plusieurs audiences. Ça a été cassé 2 fois. Enfin, voilà, mais à chaque fois, arrestation rapide, enquête rapide, arrestation rapide, condamnation rapide et des peines extrêmement lourdes. Mmh. Parce que 30 ans de prison, c'est évidemment très conséquent. Alors, bon, à la hauteur du crime, si tant est qu'ils en sont vraiment les auteurs. Enfin, voilà, on parle d'un double homicide particulièrement atroce. Voilà, d'une sauvagerie incroyable. Donc 30 ans de prison, c'est beaucoup, mais c'est vrai que, et à l'époque, les familles de ces 2 Français s'étaient mobilisées, la classe politique avait été sensibilisée à leur sort, quand les chefs d'État se rendaient sur place dans la région, leur demandaient de parler. Enfin, il y avait un mouvement qui s'était créé.
Il y avait du soutien quand même.
Ouais, il y avait un mouvement qui s'était créé autour d'eux à l'époque. Voilà, aujourd'hui, les peines ont été exécutées, ils sont sortis de prison, donc c'est vrai que aujourd'hui, sont plus dans l'actualité, puisque c'est le bien retour sûr. De Thierry Hassione qui refait ça. Mais alors moi, je vous avoue que je ne sais pas. Enfin, moi, à l'époque, 91, je n'avais pas.
Vous n'étiez pas né.
Vous êtes gentil, mais je suis.
Parce que Jean-Philippe Bernard, quand il s'évade, pour venir redevenons sérieux, si vous voulez bien, mais quand il s'évade, Jean-Philippe Bernard, il dit je m'évade pas tellement pour prendre le large, mais pour montrer que ce procès, ça a été un simulacre de procès. Il va rester en moi, comme ça, en cavale, pour dénoncer aussi sa situation.
Oui. C'est une manière d'attirer l'attention aussi. Enfin, il va être arrêté au Nicaragua un mois plus tard, ramené au Guatemala. Bon, après, c'est toujours aussi une évasion. Comment ça a été possible, j'en sais rien. Donc, c'est vrai qu'il y a... Bon, c'est pas forcément très net ce qui s'est passé là-bas. On ne sait pas, c'est loin, c'était il y a longtemps, c'est d'autres moyens d'enquêter. Alors après, est-ce que c'était facile de se dire ces deux Français qui ont été tués, ces deux Français qui les ont tués, au moins voilà. Le Guatemala est étranger à tout ça. Peut-être.
Pour qu'on soit très clair et qu'on mette tout sur la table, il y a un témoin qui va se manifester à ce procès, un témoin de dernière minute, qui dira avoir vu, c'est un concierge, je crois, d'hôtel ou un gardien de parking, qui dira avoir vu les trois hommes procéder au kidnapping du couple. Mais ce témoignage, il est d'une fragilité absolue. On a l'impression que la personne a été amenée là, au dernier moment pour faire galerie.
C'est son caractère tardif qui fait qu'il va être remis en cause par les accusés, en disant pourquoi parle-t-il si tard. En plus, il a été eu l'asile au Canada, donc il était loin. D'ailleurs, le juge Thiel, puisque c'est lui qui a pris l'instruction, est allé l'entendre au Canada quand il s'est rendu sur place. C'était pas évident. Raconte que ça n'a pas été simple. Mais les enquêtes transnationales, c'est toujours compliqué. Enfin, quand vous avez plusieurs États, déjà quand ça se passe pas chez soi, c'est pas facile.
Et le Guatemala n'a pas été vraiment très coopératif, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la justice française.
Non, parce que le juge a eu les pires difficultés pour pouvoir entendre les deux Français sur place. Il n'y a vraiment pas eu d'échanges solides avec le Guatemala, ça c'est certain.
Thierry Hassione, vous êtes aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime. Vous certifiez qu'à l'époque, vous ne vous cachez pas. Mais alors, pourquoi cette cavale rapide après l'affaire du Guatemala ?
C'est encore faux. Vous avez encore de fausses informations et je peux encore le prouver. De 1992 à 1995, il n'y a jamais eu aucun mandat d'arrêt contre moi. Je n'ai pas changé de nom. On me redonne mon passeport, je refais mon passeport en 94. En 93, quand un article va trop loin dans les accusations, je me présente à la police à Bangkok, leur explique et me dit « Écoutez, nous, il n'y a rien contre vous, vous n'avez qu'à porter plainte contre le magazine. » Je n'ai jamais fui. Le premier et seul et unique mandat d'arrêt dans cette affaire, il date de septembre 1995, il m'a été notifié à mon arrivée à Paris par le juge Gilbert Thiel. J'ai jamais été en cavale, je me suis jamais caché.
Timothée Boutry, on entend ce que dit Thierry Hassione. C'est vrai que la justice française ou même les autorités peut-être internationales ne se sont pas vraiment dépêchées d'activer un mandat d'arrêt contre Thierry Hassione.
Oui, alors je sais pas exactement pourquoi à l'époque ça s'est passé comme ça. Est-ce que à partir du moment où deux personnes avaient été arrêtées, on considérait que l'affaire était réglée? Je sais pas. C'est vrai que quand le nom d'Hassione est apparu un peu plus tard dans la presse, est-ce que c'est ça qui a déclenché quelque chose et que les autorités françaises se sont dit peut-être qu'il va falloir que nous on ouvre une enquête? Alors je sais que aujourd'hui, quand il y a un Français qui est tué à l'étranger, automatiquement il y a une information judiciaire qui est ouverte à Paris, qui est le tribunal compétent pour les faits commis à l'étranger, mais je vous avoue que je ne sais pas exactement ce qui
se passe. Je ne suis pas sûr qu'à l'époque, d'ailleurs, ça existait, cette histoire de...
Vraiment, je ne sais pas procéduralement comment ça a été possible. Ouais. Après, qu'il y ait eu une instruction en France, à partir du moment où Thierry Hassione a été interpellé à Bangkok, puis renvoyé vers... Il est devant un juge d'instruction, un interrogatoire de première comparution, un placement en détention provisoire. Donc là, on est vraiment totalement dans les canons de la procédure pénale qu'on connaît. Mais c'est vrai que je ne sais pas exactement quand ça s'est passé à la Genèse et qui cherchait qui. Est-ce que la France s'est dit ce sera le Guatemala qui va le chercher, donc c'est pas à nous? Là, on est dans une zone grise.
Dominique Latouche, sœur de Marie-Antoinette Périard, qui a donc péri de manière atroce au Guatemala. À l'époque, au tout début, Thierry Hassion, il dit qu'il affirme déjà, et très vite, il affirme que votre beau-frère, Bernard Béraud, était mêlé à une affaire de blanchiment d'argent et que cela expliquerait finalement sa mort.
Je pense que ça a beaucoup fait rire les gens qui connaissaient bien Bernard. Bernard était absolument incapable, intellectuellement et psychologiquement, incapable de se fourvoyer dans une affaire un petit peu à risque. C'était quelqu'un de fondamentalement honnête. Mmh. Voilà. Et il n'avait aucun goût pour l'aventure et le risque. S'il est parti au Guatemala, c'est parce qu'il savait que il ne craignait rien. Mmh. Il y était allé auparavant et il était très relax.
Le troisième homme du double meurtre de Guatemala City s'apprête à affronter les juges et les jurés de la cour d'assises, mais la perspective de retourner en prison va le convaincre de s'envoler. Ce 5 juin 2001, Thierry Hassion, 41 ans, est attendu devant la cour d'assises de Paris. Il est accusé de complicité d'assassinat, de faux et usage de faux et d'escroquerie. Il a toujours nié son implication dans les morts sous la torture de Bernard Béraud et de Marie-Antoinette Périard. Il reconnaît leur avoir subtilisé de l'argent, mais ne les a jamais agressés et ne voulait certainement pas leur mort. « Je n'ai pas de sang sur les mains », a-t-il répété au juge Till lors de l'instruction. Un juge qui aurait voulu entendre les deux autres Français jugés et condamnés pour le double crime, sans succès. Le Guatemala a toujours refusé leur remise, même temporaire, aux autorités françaises. Hassion n'aura pas le loisir de s'expliquer. Le jour de son procès, son fauteuil demeure vide. Il est donc jugé par contumace en son absence par la cour d'assises. Il écope de la perpétuité, nouvelle qui tombera alors qu'il a déjà pris le large depuis quelques semaines. Thierry Hassion renoue avec la clandestinité. Impossible de suivre sa trace, même si l'intéressé affirme avoir transité sous de fausses identités dans une vingtaine de pays. Il affirme même être retourné au Guatemala pour y conduire une contre-enquête et trouver des éléments susceptibles de l'exonérer de toute responsabilité dans le double crime. Il indique encore être repassé par la France avant de choisir définitivement l'exil. Il aurait fait des va-et-vient entre l'Asie et l'Amérique du Sud pour y monter d'éphémères sociétés d'un pour export. Thierry Hassion va choisir de jouer la carte de la discrétion et de la patience, au point que du côté des familles de victimes, la sœur de Marie-Antoinette Périard et le fils de Bernard Béraud vont souvent penser que le fugitif est mort. Hassion fait en fait le calcul simple de l'attente. Dans 20 ans, dit-il, sa condamnation sera prescrite. Thierry Hassion, vous êtes aujourd'hui l'un de nos invités dans l'heure du crime. Vous dites que vous n'avez jamais été en cavale, vous ne cessez de le répéter. Mais tout de même, là, juste avant le procès, avant ce procès aux assises où vous êtes convoqué, vous avez quand même pris la fuite.
Encore une fois, on peut le percevoir comme ça. Quand on me libère de France, je vais où ? Je retourne au Guatemala, sous le nom de Olive Bohumil. Je vais moi-même faire mon enquête. Et avec tous les risques que ça comprenait, d'être reconnu et de finir comme les Béraud. Mmh. Vous avez vu comment ont fini les Béraud, ils ont été torturés, on leur a arraché les yeux, on leur a arraché la langue. À M. Béraud, on lui a coupé les testicules. Il faut quand même être raisonnable. J'ai passé quand même quelques mois, je pouvais être reconnu à n'importe quel moment. Ensuite, désolé, mais moi, jamais personne ne m'a informé de mon procès. Même l'avocat de l'époque, vous pouvez lui demander. Je ne savais pas que le procès il avait eu lieu.
Alors, vous ne saviez peut-être pas que le procès avait eu lieu, mais alors, pourquoi prendre... Tout de même, on revient aux fondamentaux, là. Pourquoi prendre le large ?
Depuis 92 à 95, on m'a toujours présenté comme le coupable dans les journaux. Uniquement parce que j'avais un casier judiciaire. Voilà, les deux gamins, ils étaient innocents. Moi, j'étais coupable. Et en fait, je m'en foutais. Tant que ça pouvait aider les gamins... Arrivé 4 ans et 7 mois en préventive, avec un juge qui refuse toutes mes vérifications, qui refuse toutes mes confrontations, et moi je suis comme un con au fond d'une cellule, et personne n'y veut vérifier mes dires, et j'ai un casier judiciaire, et je vais aller me présenter la fleur à la bouche devant une cour d'assises, mais bien sûr que je vais être condamné. j'aurais été condamné sans pitié. Donc, ma seule option que j'ai eue à l'époque, c'était de retourner au Guatemala, et c'est pour ça que je suis retourné au Guatemala, avec tous les risques que ça comprenait, pour apporter moi-même les preuves.
Dominique Latouche, sœur de Marie-Antoinette Périard, on entend ce que dit Thierry Assionne. Cette fuite, ce procès raté, je suppose que du côté des familles de victimes, vous avez vécu vraiment ça comme un camouflet, comme un échec.
Ce qui a été ressenti comme un échec pour nous, c'est la libération d'Assionne. Alors que le juge Thiel ne voulait pas qu'il soit libéré. Et Assionne a été libéré pendant les vacances du juge Thiel, qui m'a dit qu'il était désolé et il n'y pouvait rien. Mais ils avaient profité de son absence de Paris pour libérer Assionne. Et que vous dire, un échec, oui, quelque part.
Timothée Boutry, journaliste parisien. Il y a quand même plein de mystères dans cette histoire. Ces crimes de restaurateur, on ne connaît toujours pas la vérité aujourd'hui. Et puis il y a cette cavale de Thierry Assionne, qui paraît très facile, finalement. Il quitte la France juste avant son procès. Il va comparaître libre, hein, c'est ça, il faut le préciser.
Oui, parce que...
Ce qui est rare, d'ailleurs, en matière d'assassinat.
Oui, ce qui est rare, mais 4 ans et 7 mois de détention provisoire, c'est extrêmement long, et on est même quasiment au-delà des délais légaux. Enfin, on flirte avec, on est sur... c'est très très long, et donc c'est normal. Et vous savez que la détention provisoire est censée être l'exception, et la règle, c'est la liberté. Mais effectivement, en matière criminelle, bien souvent, aux assises, on compare détenus. Mais sa libération, à l'époque, c'est pas le système d'aujourd'hui, que c'était la cour d'assises qui était déjà saisie, qui a procédé à cette décision, compte tenu du délai. Après, il y a un contrôle judiciaire. Est-ce que ce que m'expliquait Mme Latouche, je ne sais pas si elle vous l'a dit également, c'est qu'elle s'est rendue compte que le contrôle judiciaire n'avait pas été extrêmement bien suivi et qu'il avait...
Elle ne nous parle pas de ça, mais...
Moi, c'est ce qu'elle m'avait dit, qu'elle s'était rendue compte qu'il ne pointait plus depuis un certain moment et l'alerte n'était pas remontée. Mais ça arrive encore. Parfois, j'ai traité d'autres affaires plus récemment où quelqu'un sous contrôle judiciaire va pointer plus trop et ça remonte pas au juge d'instruction et fuit. Donc après un quelqu'un qui va comparer devant la cour d'assises, Thierry Assionne vous l'a dit, où il pense qu'il va être condamné, peut-être parce qu'il y a des éléments qui le méritent, je sais pas, c'est à la justice de décider, mais et quelqu'un qui prend la fuite, c'est pas exceptionnel non plus. Alors
c'est presque naturel, j'ai envie de dire, mais
bon. Oui, naturel, je sais pas, enfin voilà, mais il y a des gens qui ont pas forcément envie d'aller comparaître en disant qu'ils vont prendre une lourde peine, et ça se comprend. Après, il y a des gens qui se décident de faire face, et surtout s'ils s'estiment innocents, de se dire je vais aller vraiment prouver mon innocence, et je vais aller devant les jurés à la cour d'assises et on va reconnaître mon innocence. Bon, ça après, voilà, mais oui, c'est facile, mais c'est pas exceptionnel non plus, et on connaît d'autres cas.
Pas de procès digne de ce nom pour le troisième suspect du double crime. 20 années vont ainsi s'écouler avant qu'une tempête, une vraie, ne fasse ressurgir le personnage du néant. Ce 4 octobre 2021, en pleine nuit, un petit voilier surpris par la tempête en mer des Célèbes, en Indonésie, lutte pour éviter le naufrage. La foudre s'est abattue sur le bateau, désormais privé d'électricité et de radar. Les deux hommes à bord, deux Français, n'ont plus d'autre choix que d'accoster sur la petite île de Karatung. Le lendemain, la police locale, alertée par la présence d'un Occidental qui cherche à se procurer une carte SIM pour son téléphone, vient visiter le voilier. Le skipper a certifié qu'il était seul à bord, mais les policiers veulent vérifier. Dans la cabine, il tombe nez à nez sur un homme barbu, front dégarni, visage rond, qui semble s'y cacher. Il n'a pas de passeport, il indique que celui-ci a été volé aux Philippines et présente des documents français. Il s'agit de Thierry Assionne, 62 ans, objet d'une notice rouge émise par Interpol, tout simplement l'équivalent d'un mandat de recherche et d'arrêt. Les deux hommes sont transférés sur la grande île de Sulawesi, dans la capitale, Manado. Le premier est expulsé vers la France, Thierry Assionne est lui placé dans une résidence où il n'a d'autre choix que d'attendre. L'ambassade de France à Jakarta souhaite que l'intéressé soit extradé afin d'être jugé à Paris. Assionne était persuadé qu'après 20 ans, les faits étaient prescrits et qu'il pourrait rentrer en France. Il affirme qu'au moment du naufrage, il voguait avec son compagnon vers la Nouvelle-Calédonie. Il souhaitait rentrer au pays pour se faire soigner. L'ex-fugitif continue à clamer son innocence et promet de tout déballer s'il comparaît un jour aux assises. Timothée Boutry, journaliste au Parisien, c'est vous qui avez révélé cette, on peut pas dire une arrestation, mais cet événement qui se passe sur cette île indonésienne où finalement on va démasquer Thierry Hassion. Sans ce naufrage, vraiment, on ne l'aurait jamais attrapé. C'est le hasard qui a prévalu.
Ah oui, là, totalement. Là, cette avarie en mer n'était absolument pas prévue. Alors, ce qui était prévu, c'est qu'il se rende en Nouvelle-Calédonie. Alors, parce qu'il y a des documents de douane, là, le bateau.
Ça, c'est établi.
Il y a un document. Il partait des Philippines pour se rendre en Nouvelle-Calédonie. Alors, Nouvelle-Calédonie, c'est donc la France. Sous quelle identité se serait-il présenté? Moi, je n'en sais rien. Thierry Hassion dit qu'il voulait se présenter tel qu'il est, sous sa véritable identité, se faire soigner, peut-être s'expliquer, je ne sais pas. Mais bon, voilà, si c'était vraiment présenté sous ce nom-là, ça aurait sans doute fait tilt, puisque il y a une recherche, il y a une fiche rouge à Interpol, je vous l'ai dit, parce que la Cour d'appel de Paris, qui est compétente, puisqu'on parle d'une procédure devant la Cour d'assises à Paris, avait émis ce mandat en 2019, et vraisemblablement, on peut penser que ce mandat a été émis pour casser la prescription, parce que il n'y a pas que les faits qui peuvent être prescrits, il y a des peines qui peuvent être prescrites. C'est-à-dire qu'après 20 ans, une peine est prescrite.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est le droit.
Voilà.
C'est la procédure pénale.
Donc, ce qu'on reproche à Thierry Hassion est prescrit.
Alors, lui dit, voilà, j'ai calculé, ma peine, c'était il y a 20 ans, donc 20 ans plus tard.
C'est mécanique.
Voilà, sauf qu'il y a eu ce mandat émis récemment par la Cour d'appel de Paris. Alors, c'est pas comme ça qu'on me l'a dit, mais on peut penser, et vous connaissez bien les affaires comme moi, que ce mandat a été pris justement pour interrompre, casser cette prescription et faire en sorte, donc, parce que le mandat a été pris avant la prescription.
Donc, c'est cette date qui prévaut, finalement.
Voilà,
c'est
ce qui fait que c'est un artifice procédural pour que l'affaire court encore et qu'au cas où Hassion clignote, ce qui a été le cas, eh bien, il soit toujours passible de la cour d'assises, et c'est ça qui pourrait se produire, en fait, aujourd'hui. S'il était extradé, c'est sans doute devant la cour d'assises qu'il se retrouverait.
Thierry Hassion, ben justement, vous êtes bloqué en Indonésie, 20 ans que vous étiez donc recherché par la France. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps?
Durant ces 20 ans, j'attendais que la prescription elle arrive pour démarrer une vie normale, on va dire ça comme ça. On m'a persécuté pendant 30 ans quand même. On m'a mis en prison pendant 5 ans, si on compte l'arrestation bidon en Thaïlande. J'ai tout perdu en Thaïlande, j'ai tout perdu au Vietnam, j'ai tout perdu en Birmanie, je suis là bloqué en Indonésie, et là même mon blocage en Indonésie, il faut qu'on m'explique. Depuis le 19 novembre, le gouvernement indonésien, la police indonésienne, j'ai les courriers, ont informé l'ambassade de France que je peux ni être arrêté ni être extradé. Alors qu'on m'explique pourquoi on ne veut pas que je rentre en France. J'ai jamais été en cavale. En arrivant à Karatoum, je présente deux pièces d'identité au nom de Thierry Hassion. 50 jours, les Français, ils ont pour venir me chercher. Il n'y a personne qui est venu. Alors, on lance un mandat d'arrêt, personne n'y vient me chercher. Bon, on ne peut pas dire que c'est de ma faute.
Dominique Latouche, sœur de Marie-Antoinette Perriard, l'une des victimes du double crime de Guatemala City. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que Thierry Hassion venait d'être retrouvé en Indonésie?
Eh bien, interloqué. Pour vous avouer les choses, je me disais qu'il était mort. On n'avait plus de nouvelles depuis quand même plus de 20 ans. Et le major Bond de la section de recherche de Paris m'avait dit « Madame Latouche, on le retrouvera un jour ». Et il avait raison.
Timothée Boutry, c'est compliqué évidemment, là on est dans les affaires de droit international, de procédures vraiment très précises avec des textes extrêmement précis. Si on pouvait résumer, qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour Thierry Hassion? Je suppose qu'il y a la justice française communique avec son homologue indonésienne.
Oui, c'est vrai, c'est toujours extrêmement compliqué, hein. Même entre deux pays voisins.
Et ça passe par le Quai d'Orsay.
Les questions d'extradition, c'est assez particulier, ça dépend s'il y a des accords entre les pays, c'est une matière complexe. Encore plus là, quand on est sur des faits anciens. Bon, il y a un mandat, c'est sûr. Il y a un mandat qui a été émis par la Cour d'appel de Paris. Donc, c'est-à-dire qu'il est recherché. Ça a été transmis à Interpol. Voilà, ça a fonctionné puisque quand son nom est apparu, ça a flashé Interpol. Donc, les Indonésiens ont vu,
ça existe.
Dire, là, il y a quelque chose. Après, un pays, il extrade en fonction des éléments que le pays qui demande lui fournit. Donc, quand on arrête quelqu'un, on dit « Ah bon, il y a un mandat, mais pourquoi vous le voulez ?» quoi. Même en France, c'est pareil, il y a des audiences qui se passent. Si un pays étranger cherche quelqu'un qu'on arrête sur notre sol, il y a une audience qui se passe dans la chambre de l'instruction et qui va examiner les charges qui pèsent et pourquoi, et on va le remettre. Donc là, c'est sans doute qui doit se passer. Après, il y a des questions d'immigration, des questions juridiques qui, là, je vous avoue, m'échappent.
Mais en tout cas,
ça achoppe. Et en tout cas, la France le recherche, ça c'est sûr. L'Indonésie est en lien avec l'ambassade. Après, très concrètement, c'est compliqué, mais ça prend du temps. Enfin, c'est pas exceptionnel que ça prenne du temps, ces questions-là.
Thierry Hassion ne devrait pas échapper théoriquement à une remise aux autorités françaises, mais rien n'est fait. À la clé, la perspective d'un procès très attendu par les familles des deux victimes. Depuis sa résidence de Manado, Thierry Hassion répète qu'il déballera tout ce qu'il sait devant la cour d'assises, à savoir que le couple de restaurateurs assassinés trempés dans des affaires louches, qu'ils étaient de mèche avec les autorités locales, les stupes américains, et qu'ils blanchissaient de l'argent de la drogue pour financer le RPR en France. Hassion précise même que c'est lui, en personne, qui transportait ces fameuses mallettes d'argent. Pour le reste, il reconnaît qu'il a récupéré l'argent du couple à Miami avec le neveu du restaurateur Jean-Philippe, mais que tous deux n'ont pas de sang sur les mains. Ils sont tombés des nues en apprenant le massacre du couple. Face à cette version, les familles des victimes sont plus que circonspectes. Dominique, la sœur de Marie-Antoinette Périard, indique aux Parisiens « Il peut raconter ce qu'il veut, on sait de manière certaine qu'il a vidé les comptes à Miami. » Bertrand Béraud, fils de Bernard Béraud, est tout aussi clair. Ce crime est lié à une affaire d'extorsion de fonds. Hassion est un bandit de grand chemin. Des proches qui espèrent un procès aux assises, plus de 30 ans après les morts sous la torture de Marie-Antoinette Périard et Bernard Béraud. Thierry Hassion, c'est donc vous, et vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, c'est donc vous que la justice française souhaite récupérer. Je crois d'ailleurs que vous vous êtes adressé au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et même au président de leur République, mais pour leur dire quoi, leur demander quoi?
Moi, je demande seulement vérifier mes déclarations. Tout ce que je dis maintenant, c'est les mêmes déclarations de 1995. J'ai jamais changé. Voilà, c'est simple quand même de vérifier ces comptes de Miami. C'est simple. On verra à qui ils appartiennent et on verra qui a retiré l'argent. Et après, on pourra rediscuter si M. Thierry Hassion, il est coupable ou si depuis 30 ans, il est persécuté. On ne peut pas condamner quelqu'un à la réclusion criminelle à perpétuité sans vérifier ce qu'il a à dire. Je le dis maintenant à l'antenne de votre émission, vérifiez les comptes de Miami. Si les comptes, ils m'appartiennent, ils sont pas à Béraud, comme je l'affirme, j'accepte ma condamnation à la prison, à la réclusion criminelle à perpétuité. J'ai 62 ans, je vais mourir en prison. Mieux que ça, je peux pas dire.
Écoutez, on verra la suite qui va être donnée et savoir si ce procès finira par se tenir. Quoi qu'il en soit, ce que vous dites, c'est que la balle est dans le camp de la justice, c'est ça?
La balle est dans le camp de la justice. Et maintenant, même les familles des victimes, je suis désolé pour eux. Ils pensent que je suis coupable, parce qu'ils connaissent que l'histoire du chèque. Celui qui a encaissé le chèque, il est à son nom, donc c'est lui le coupable. Ok, je veux bien. Même eux, apparemment, ne sont pas au courant des comptes de Miami. Donc il faut quand même qu'on m'explique. C'est quand même la partie civile.
Timothée Boutry, journaliste au Parisien, qu'est-ce qu'on peut penser de ce procès qui pourrait se tenir? Je vous dis ça parce que les faits sont extrêmement anciens, 30 ans. Le RPR, qui est accusé par Thierry Hassion d'avoir pompé un petit peu dans les comptes des restaurateurs, n'existe plus. Il y a beaucoup de gens qui ont disparu. Est-ce qu'on peut attendre un procès en bonne et due forme après autant d'années?
Vous savez, c'est toujours ce qu'on dit, plus c'est loin dans le temps par rapport aux faits, plus c'est compliqué, parce que c'est plus dur d'être proche de la vérité, parce qu'il y a des témoins qui ne sont plus là. En plus, ça s'est passé très loin, donc il y a beaucoup de témoins auxquels on n'a jamais eu accès et auxquels on n'aura jamais accès. Après, cette piste de financement politique, le juge-t-il, il l'a instruite. Alors, Thierry Hassan pense pas correctement, pas suffisamment, c'est son point de vue, mais la personne que Thierry Hassan met en cause, il l'a entendu. Il l'a entendu dans le cadre de son instruction. Alors, elle a nié, et Justil me disait, pour moi, voilà, ça ressemble plus à de la fabulation. Et donc, voilà. Mais en tout cas, si procès il y a, l'unique accusé, ce serait Thierry Hassan. Il n'y a que lui qui a été mis en accusation devant la cour d'assises. Donc, voilà, il pourra dire ce qu'il veut.
Mais ça voudrait dire aussi, Timothée Boutry, que par exemple, les deux autres complices présumés qui ont eux été jugés au Guatemala et qui ne seront pas jugés évidemment à ce procès, Jean-Philippe Bernard, Philippe Biret, ils pourraient témoigner.
Ah bah oui, ah bah ça évidemment, après ce sera...
Je sais pas ce qu'ils sont devenus à vrai dire, mais...
Non, alors je crois qu'il y en a un qui est toujours au Guatemala, bon je... ah bah totalement possible, oui, ce sera d'ailleurs des témoins de premier ordre, donc peut-être il pourrait se passer des choses. Après, est-ce qu'ils auraient envie, eux, de se présenter devant une cour d'assises pour évoquer ça? Est-ce qu'ils se diraient peut-être c'est l'occasion d'exprimer notre innocence, on a été injustement condamné? Ça, je sais pas, il faut essayer de le voir, mais ils pourraient évidemment être cités, enfin ce serait des témoins de la première importance. Ah, ce serait pas inintéressant, évidemment,
bien sûr,
un procès comme sur ça. Mais forcément, je vous l'ai dit, compliqué, parce que c'était loin, il y a longtemps.
C'est une reconstruction historique, on peut le dire. Hein. C'est
ce que là, bah, oui, surtout que, après, quel est le matériau dont a disposé le juge d'instruction? Alors, Gilbert Thiel, il est allé au Canada, on l'a dit, il est allé au Guatemala pendant son instruction, il est allé aux États-Unis, à Miami, c'est pour ça que Thierry Hassan en parle beaucoup. Et c'est parce que Gilbert Thiel en parle de cette affaire dans son livre. Donc, il y a eu des choses. L'instruction a été nourrie. Moi, j'ai pas accès, évidemment, à ce contenu-là, mais on jugera avec le dossier. Et bon, bah, il y a pas mal de choses qui vont être évoqué, et puis Thierry Hassan, vous l'avez entendu, il va être bavard, il va dire des choses. Donc
oui, il a envie de parler en tout cas,
ça, c'est
le moins qu'on puisse dire, et on ne l'arrête pas, effectivement, on a l'impression qu'il a envie vraiment de vider son sac. Dominique Latouche, on va conclure cette émission avec vous êtes la sœur de Marie-Antoinette Pereira, l'une des deux victimes du Guatemala. Qu'espérez-vous aujourd'hui? Qu'attendez-vous d'un éventuel procès?
Je n'attends plus la vérité, parce que je crois qu'on ne l'aura jamais en totalité. Ça n'est plus possible. Ça remonte, il y a eu 30 ans, il y a quelques jours. Donc, nous avons fait notre deuil différemment. À vrai dire, je n'en attends pas énormément de choses. Je suis dans l'expectative.
Merci beaucoup Dominique Latouche, Timothée Boutry et bien sûr Thierry Hassan d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.